إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier la croyance des quatre imams au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la fin de ce poème Al-Lamiyah, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné différents fondements liés à l'un des six piliers de la foi qui est la foi au jour dernier. Il a donc mentionné certains éléments importants et des événements qui auront lieu dans l'au-delà. Il a dit rahimahullah: wa uqirru bil mizan wal hawl alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu. Et je crois en la balance et au bassin qui est celui dont j'espère boire et étancher ma soif à partir de celui-ci. L'auteur rahimahullah ta'ala a ici exposé la croyance authentique au sujet de la balance, al-mizan, c'est-à-dire la balance sur laquelle seront pesées les œuvres au jour de la résurrection. Et ceci, comme on a dit, fait partie de la foi au jour dernier, qui est le cinquième des six piliers de la foi. Et la croyance des gens de la sunnah est d'avoir foi en cela, car la balance a été mentionnée dans les textes clairs du Coran et de la sunnah authentique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au verset 8 de surat al-A'raf, « وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. » Et la pesée ce jour-là sera équitable. Par conséquent, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, ceux-là seront ceux qui réussiront. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au verset 47 de surat al-Anbiya, « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à partir du verset 6 de surat al-Qari'ah, « فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ » Quant à celui dont la balance sera lourde, « فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ » Il sera dans une vie agréable. « وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ » Et quant à celui dont la balance sera légère, « فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ » Sa mère destination est un abîme très profond. On voit donc à travers ces quelques versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement informé de la pesée des œuvres sur la balance au jour de la résurrection. Et parmi les preuves tirées de la sunna authentique, il y a ce hadith très explicite rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux paroles qui sont aimées du tout miséricordieux, légères sur la langue et lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc tous ces textes, ce sont des preuves très explicites que les œuvres seront pesées sur la balance au jour de la résurrection. Et le fait d'avoir foi en cela pousse le croyant à multiplier les bonnes œuvres, afin d'être parmi ceux dont la balance sera lourde au jour de la résurrection, et ainsi avoir une vie agréable. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Donc ceci va te pousser à multiplier les œuvres, car tu as conscience que ces œuvres, elles seront pesées. Que tes bonnes et tes mauvaises œuvres seront pesées. Tu espères donc avoir la balance de tes bonnes actions, l'emporter sur la pesée de tes mauvaises actions. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle du bassin, al-hawd, c'est-à-dire qu'il fait partie de la croyance authentique, qui est la croyance des gens de la sunnah, d'avoir foi au bassin par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, ont rapporté d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin est d'une distance parcourue en un mois, c'est-à-dire sa taille. Son eau est blanche comme le lait, son odeur est plus agréable que celle du musc, et ses vers sont comparables aux étoiles dans le ciel. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif après cela. » On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit son bassin, ainsi que son eau, et il nous a décrit la situation de celui qui en boira. C'est-à-dire que les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui n'ont pas altéré la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont pas modifiée, ils pourront boire de son bassin bi'idhnillahi ta'ala. Quant à tous ceux qui ont modifié ou altéré sa religion, ils seront empêchés d'en boire. C'est-à-dire que ceux qui ont altéré sa législation, ceux qui se sont détournés de sa sunnah, ils seront rejetés du bassin et ne pourront pas en boire. Et parmi eux, les gens de l'innovation et de l'égarement. Les anges et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les écarteront du bassin en raison de leur altération de la religion, comme cela est confirmé dans les hadiths authentiques, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit qu'il espère pouvoir étancher sa soif en buvant de ce bassin. Et telle est la bonne opinion que se doit d'avoir le croyant qui se maintient sur le chemin de la droiture, en veillant à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en se cramponnant à sa sunnah. Il est légitime pour lui d'espérer pouvoir boire de ce bassin. Et je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux dont les balances seront lourdes au jour de la résurrection et parmi ceux qui boiront du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite dit: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. Et je crois aussi au pont, au sirat, qu'on étendra au-dessus de l'enfer. Certains seront sauvés et d'autres abandonnés. L'auteur, rahimahullah ta'ala, exprime ici sa croyance au sujet du pont, au sujet de sirat, ce pont qui sera étendu au-dessus de l'enfer, d'une rive à l'autre. Et ceci aura lieu au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 71 de surat Maryam: Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Les savants du tafsir ont expliqué ici qu'il s'agit du passage sur le pont étendu au-dessus de l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, qui ne passera pas au-dessus de l'enfer. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sirat, le pont, sera apporté et placé sur les deux rives de l'enfer. Les compagnons dirent alors: qu'est-ce que le sirat? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: c'est un pont glissant et couvert de chardons qui est installé dans l'obscurité au-dessus de l'enfer. Et il est important de savoir que les serviteurs passeront sur ce pont à une vitesse déterminée par les œuvres qu'ils auront accomplies dans ce bas monde, ainsi que par leur fermeté dans leur cheminement sur le chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'emprunter. C'est-à-dire que plus le serviteur se maintient droit sur ce chemin, sur as-sirat al-mustaqim, le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, plus tu te maintiens droit sur ce chemin, plus tu passeras vite sur As-Sirat, sur le pont dans l'au-delà, qui sera étendu au-dessus de l'enfer. Car les gens traverseront le pont de manière différente. Il est venu dans de nombreux hadiths authentiques que certains le traverseront comme une étoile filante, d'autres le traverseront comme un clin d'œil, d'autres comme un éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un oiseau, d'autres à la vitesse du plus rapide des chevaux, d'autres comme celui qui monte sur un chameau, d'autres marcheront normalement, d'autres ramperont, et d'autres seront jetés en enfer, wa l'ayadu billah. Plus la personne s'empresse d'œuvrer dans le bien dans ce bas monde, plus elle passera vite sur ce pont. Vous voyez ici-bas que nous différons tous dans notre manière de nous soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles entendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une chose, s'empressent de l'accomplir. Et qui, lorsqu'elles entendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit une chose, s'empressent de la délaisser. Ils s'empressent vers le bien, ils se concurrencent dans le bien. Ils ne tardent pas à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres qui ont plus de mal que cela. Ils se soumettent, mais sont parfois paresseux, ont parfois du mal à lutter contre leurs âmes, sont parfois distraits par des choses de ce bas monde, et ainsi de suite. Donc de la même manière que les personnes diffèrent dans leur manière de se soumettre et de cheminer sur le droit chemin ici-bas, ils traverseront et chemineront sur le pont dans l'au-delà. Tu vois donc l'importance de t'empresser de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas retarder cela, mais d'être de ceux qui s'empressent dans le bien autant qu'ils peuvent afin d'obtenir le salut dans l'au-delà et de traverser le pont de la manière la plus rapide. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: والنار يصلاها الشقي بحكمة وكاد التقي إلى الجنان سيدخل. Par sagesse, le malheureux sera jeté dans le feu, de même que c'est au paradis qu'entrera le vertueux. L'auteur exprime ici la croyance des gens de la Sunna au sujet du paradis et de l'enfer, qui sont les demeures finales des serviteurs, qui ne seront pas tous rétribués de la même manière, mais chacun en fonction de ses œuvres. Les croyants seront récompensés par le paradis, tandis que les mécréants seront rétribués par le châtiment du feu de l'enfer. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 35 de Surat al-Qalam: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Traiterons-nous les muslimines, c'est-à-dire ceux qui se sont soumis à Allah, à la manière des criminels? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 21 de Surat al-Jathiyah: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? Il n'y a pas de doute que traiter de la même manière le croyant et le mécréant s'opposerait à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un livre, a envoyé un messager, a ordonné de le suivre, de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Ceux qui l'ont suivi et se sont soumis, il n'y a pas de doute qu'ils seront récompensés en bien pour cela. Quant à ceux qui ont mécru, qui ont renié le message et qui s'y sont opposés, il n'y a pas de doute qu'ils seront châtiés en raison de cela. Donc dans l'au-delà, les gens seront séparés en deux groupes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 7 de Surat al-Shura: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Un groupe ira au paradis et un groupe ira dans la fournaise ardente, le feu de l'enfer. Donc les malheureux iront en enfer à titre de rétribution pour leurs œuvres. Et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son équité, de sa sagesse. Et Allah fera entrer les vertueux au paradis par sa grâce et sa miséricorde. Et il est nécessaire ici de souligner que le paradis et l'enfer sont éternels. Celui qui entre au paradis y demeurera et vivra éternellement. Et de la même manière, l'enfer est éternel. Quant à celui qui entre en enfer, alors la durée qu'il restera en enfer dépendra de sa situation. Le mécréant, il y entrera et y demeurera éternellement. Il sera dans un châtiment éternel. Quant au pécheur parmi les musulmans, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de châtier en raison de certains de ses péchés, desquels il ne s'était pas repenti, alors celui-ci, s'il entre en enfer, il n'y entrera qu'à hauteur de ses péchés. Il n'y demeurera pas éternellement. Après cela, il sera sauvé de l'enfer, une fois avoir été châtié à hauteur de ses péchés, puis il entrera au paradis en raison de sa foi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ. Et tout vivant doué de raison dans sa tombe sera en compagnie de ses œuvres et des questions lui posera. L'auteur nous informe ici qu'entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, au paradis ou en enfer, il y a une vie intermédiaire qui est la vie du barzakh. En effet, lorsque le serviteur meurt, il se trouve alors dans la vie du barzakh, qui est une vie intermédiaire, dans l'attente du jour de la résurrection. Et il est venu dans le hadith authentique que lorsque le serviteur pieux mourra et sera placé dans sa tombe, son âme sera ramenée à son corps et deux anges se présenteront à lui et le mettront assis et lui diront: « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra alors: « Mon Seigneur est Allah. » Puis ils lui diront: « Quelle est ta religion ?» Il répondra: « Ma religion est l'islam. » Puis ils lui diront: « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, il est le messager d'Allah. Ils lui diront enfin, qu'en sais-tu? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui et j'y ai cru. On clamera alors depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit du paradis et des vêtements du paradis, ouvrez-lui une porte ouvrant sur le paradis. Il pourra alors en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe à perte de vue. Et un homme au visage radieux et aux beaux vêtements se présentera à lui et lui dira, je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voici le jour qui t'était promis. Le serviteur dira, qui es-tu? L'homme lui répondra, je suis ton œuvre pieuse. Il dira alors, ô Seigneur, fais venir l'heure. Ô Seigneur, fais venir l'heure que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant au serviteur mécréant, lorsqu'il mourra, qu'il sera placé dans sa tombe et que son âme sera ramenée à son corps, les deux anges se présenteront à lui et le mettront assis et lui diront, qui est ton Seigneur? Il répondra alors, ah, je ne sais pas. Puis ils lui diront, quelle est ta religion? Il répondra, ah, je ne sais pas. Puis ils lui diront, qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, ah, je ne sais pas. On clamera alors depuis le ciel, préparez-lui un lit de l'enfer et des vêtements de l'enfer. Ouvrez-lui une porte ouvrant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront alors et sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes se croiseront. Puis un homme au visage laid, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira, je t'annonce la nouvelle de ce qui t'afflige. Voici le jour qui t'était promis. Le serviteur l'interrogera alors, qui es-tu, puisque ton visage présage du mal? Il répondra, je suis ta mauvaise œuvre. Il dira alors, ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Et ce hadith est rapporté par les imams Ahmad et Abu Daoud, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Et ceci n'est qu'un résumé du hadith. On voit donc dans celui-ci ce que l'auteur, rahimahumullah ta'ala, nous a mentionné. Que tout vivant doué de raison dans sa tombe sera en compagnie de ses œuvres et des questions on lui posera. Ses œuvres seront en sa compagnie, bonnes ou mauvaises. En effet, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses suivent le mort. Deux reviennent, une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Sa famille et ses biens repartent et ses œuvres restent avec lui. Ce sont tes œuvres qui vont rester avec toi dans ta tombe, bonnes ou mauvaises. Il est important de comprendre cela, afin d'œuvrer dans ce bas monde pour avoir une bonne compagnie dans sa tombe, afin de voir ses œuvres arriver avec un visage radieux, de beaux vêtements, et non pas les voir arriver avec un visage qui présage du mal, des vêtements désagréables et une odeur nauséabonde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ce qui est mentionné dans ce hadith, cela fait partie du monde de l'invisible. Et des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qui arrivera au serviteur après sa mort. Et en ce jour immense, la réponse à ces questions dépendra de la foi du serviteur et de ses œuvres ici-bas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 27 de Sourate Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Lorsque ces questions te seront posées, Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les croyants afin qu'ils puissent répondre de manière correcte à ces questions, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. La réponse à ces questions, il ne faut pas penser que c'est simple comme on le fait ici-bas. Qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Qui est ton prophète? Mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, même le mécréant, il peut dire ça. L'hypocrite, il le dit. L'hypocrite, ici-bas, il le dit. Il dit ma religion est l'islam. Mon Seigneur est Allah. Mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans son cœur, il cache la mécréance. Mais dans l'au-delà, il ne pourra pas répondre. Il dira ah, ah, je ne sais pas. Ah, ah, je ne sais pas. Donc il est important pour le croyant de comprendre cela, de purifier son cœur, de perfectionner sa croyance, de préserver sa croyance de toute chose innovée, d'avoir foi en tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna, et d'œuvrer en fonction de cela, afin d'être parmi ceux qui répondront à ces questions d'une parole ferme, et d'être préservé ainsi du châtiment de la tombe, et de profiter de ses délices en attendant la résurrection. Et parmi les preuves du Coran concernant le châtiment de la tombe, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 46 de Surat Ghafir, au sujet des gens de Pharaon, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu, ils y sont exposés matin et soir, c'est-à-dire dans le barzakh, dans la vie intermédiaire. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Un châtiment encore plus dur. Les savants du tafsir ont donc expliqué que ce verset concerne la vie intermédiaire du barzakh, et c'est donc une preuve du châtiment de la tombe. Donc tout ce que nous venons de voir, comme nous l'avons dit, cela fait partie du cinquième pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Et il fait partie de la foi au jour dernier de croire en tout ce qui aura lieu après la mort, parmi les choses confirmées dans les textes du Coran et de la Sunna. Car ces choses font partie des choses de l'invisible, qu'ils ne peuvent pas être affirmées de par nos raisons, de par nos réflexions. Mais elles ne peuvent être affirmées que par révélation divine, c'est-à-dire par les textes du Coran, le livre d'Allah, ou les textes de la Sunna authentique, rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a vu au sujet des noms et des attributs, et des points précédents que l'on a vus liés à la croyance, ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ils croyaient en tout ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, tel que cela est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Et parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, il y a les quatre grands imams de l'islam, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, et Ahmed, rahimahumullah ta'ala. C'est pour cela que l'auteur de ce poème, l'auteur d'Al-Lamiya, a conclu ce poème en disant « هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. » Telle est la croyance de Shafi'i et de Malik, ainsi que de Abu Hanifa et de Ahmed, elle est transmise. Si tu suis leur chemin, tu obtiendras la réussite, et si tu innoves, alors on ne se fiera pas à toi. Celui qui suit la croyance de ces quatre grands imams au sujet de ces fondements immenses, qui font partie des fondements de la croyance des gens de la Sunna, alors celui-ci obtiendra la réussite, Inch'Allah. Car sa croyance sera conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Quant à celui qui innove, qui suit une voie déviante parmi les voies de gens de l'innovation et de l'égarement, parmi ceux qui ont opposé leur raison défaillante aux textes clairs et explicites du Coran et de la Sunna, alors celui-ci, on ne se fiera pas à lui. Il n'aura pas de soutien et sa parole ne sera pas prise en considération. Car ce qui est pris en considération dans notre religion, et plus particulièrement dans le domaine de la croyance, c'est ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. À l'exemple de ces quelques fondements dont nous n'avons vu ici qu'un bref aperçu et que nous aurons peut-être l'occasion d'étudier de manière plus approfondie, Inch'Allah ta'ala, à travers d'autres ouvrages plus développés, bi'inillah. Vous avez donc vu à travers ces quelques cours ces points de la croyance authentique au sujet desquels nos imams étaient tous unanimes et sur lesquels il convient d'unir la communauté afin qu'elle retrouve sa force et sa puissance, bi'idhnillah ta'ala. Et comme je l'ai mentionné dans l'introduction, il est surprenant de voir aujourd'hui des gens, parmi ceux se mettant en avant dans la prédication, prétendre vouloir unir la communauté en les obligeant ou en prétendant qu'il est obligé pour eux de suivre de manière absolue la voie d'un de ces imams dans le domaine de quoi? Dans le domaine de la jurisprudence. Et en parallèle de cela, il laisse aux gens le libre choix de suivre ce que bon leur semble dans le domaine de la croyance. Peu importe s'ils suivent la voie des Jahmiyyah, la voie des Mu'tazila, la voie des Asha'ira, la voie des Maturidiyya ou autres parmi les sectes déviantes qui se sont égarées dans le domaine de la croyance. Ça, ce n'est pas grave. Pour eux, ce n'est pas une cause de division. Mais ils veulent obliger les musulmans à s'unir sur les questions de jurisprudence qui, pour beaucoup, sont des questions au sujet desquels la divergence est admise, et au sujet desquels la divergence n'est pas une cause de discorde et de division entre les musulmans. Alors que dans le domaine de la croyance, il nous incombe de nous unir sur ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. La divergence n'est pas admise dans le domaine de la croyance. Ces points que nous avons mentionnés, ils font unanimité entre les grands imams de l'islam. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, étaient unanimes sur cela. Il n'est donc pas permis de diverger à ce sujet. Et la croyance, comme on l'a mentionné, c'est la base et le fondement même de la religion sur lesquels repose la validité de l'ensemble de nos œuvres. Il nous incombe donc de faire des efforts afin de purifier nos croyances, de les préserver de toutes choses innovées et d'emprunter la voie de nos pieux prédécesseurs et parmi eux, ces quatre grands imams de l'islam, rahimahumullah ta'ala. On a donc terminé ainsi l'étude concise de ce poème riche en bénéfices, Al-Lamiyah, attribué au cheikh de l'islam, Taqiyuddin, Ahmad ibn Abd al-Halim, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ce qui était juste provient d'Allah, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.